Bienvenue à ce cinquième module du cours DevOps en pratique. Je suis toujours avec Julien et Stéphane. Et on va parler dans ce cinquième module de build et d'intégration continue, donc un terme qu'on entend souvent quand on parle de DevOps. Donc on va expliquer ce que c'est avec tous les deux. Et puis on va voir comment Visual Studio Team Services, dans une démonstration donc avec Julien, permet de mettre en place tout ce qu'il faut pour faire un vrai process de build et d'intégration continue. Donc Stéphane, qu'est-ce que c'est que l'intégration continue ?
C'est peut-être un peu tôt pour en parler, laisse-moi le temps d'arriver à l'intégration continue.
D'accord.
Donc encore une fois, on progresse dans notre cercle vertueux. On a vu le planning, le développement, on a parlé un petit peu des tests. Voilà, une fois qu'on a ce code source, qu'on a pris soin de sauvegarder dans notre contrôleur de code source et de versionner, vient le moment où on a envie de produire un exécutable et des librairies à partir de ce code source. Donc là, on arrive à un nouveau processus qui s'appelle le processus de build. Donc de génération des livrables. Toujours un peu de mal à le traduire celui-là. Donc on voit bien là, on arrive au bout de notre flèche. Donc le processus de build, non seulement il est là pour permettre de produire du code compilé en vue d'obtenir l'exécutable souhaité, mais également produire toutes les librairies associées. Et ce build qui va être produit, il va devoir pouvoir être exécuté, quel que soit l'environnement cible. Donc il ne faut pas qu'il y ait de dépendance vis-à-vis de l'environnement, enfin, il y aura toujours une dépendance vis-à-vis de l'OS, mais du coup il va falloir s'appuyer sur des systèmes de package management qu'on a déjà évoqués. Donc fréquemment, dans le build, on fait aussi appel à des solutions type NPM par exemple, ou Nuget, pour automatiser la mise à disposition des éléments dont on va avoir besoin pour la compilation.
D'accord.
Et donc, une fois qu'on a son environnement de build à peu près correctement constitué, une fois qu'on a le code source à disposition, on va faire ce qu'on appelle une définition de build. Donc il y a plusieurs langages là encore qui nous permettent de décrire, de définir ce build, différents outils encore que Julien va nous montrer. Et donc le rôle du processus de build, ça va être d'aller chercher la dernière version des sources et de lancer à la fois la compilation et le packaging qui va nous permettre d'avoir ces librairies qui viennent éventuellement être associées à un exécutable. Évidemment, il faut s'assurer du fait que le build est fonctionnel, donc on peut lancer des tests qui cette fois-ci pourront être des tests unitaires, mais des tests qui pourront aller un peu plus loin. Ça peut être alors en fonction de la durée du build, de la fréquence du build, on peut lancer éventuellement un test de charge, ou en tout cas des tests de performance, pour s'assurer du fait que le code qu'on produit non seulement est de qualité, enfin qui est fiable, mais en plus qui peut répondre à un certain nombre de critères de performance. Et une autre question à se poser, c'est à quelle fréquence on va lancer ce build ? Est-ce que c'est chaque fois qu'un développeur va faire un archivage de son code source, donc à chaque commit ? Est-ce que c'est la nuit, parce que justement, certains éditeurs logiciels ont des builds qui durent parfois plusieurs heures, donc même j'en connais un bien, bien connu du marché, c'est lequel on travaille. Bon. Donc on ne peut pas forcément, suivant tous les cas, lancer un build chaque fois qu'on change une virgule. Donc.
Et c'est vrai que d'ailleurs, on parle rarement d'une seule build, d'une seule définition de build. En général, on en a plusieurs. On va en avoir une en général à chaque commit qui sera très rapide et qui fera juste la compilation, l'exécution des tests unitaires vraiment pour l'intégrité. Et c'est vrai que des fois, on va un petit peu aller plus loin que ce que devrait être le processus de build et faire un déploiement sur un environnement de dev ou de QA pour aller faire, comme tu le disais, un test de charge. Mais ça, ce sera peut-être des builds qu'on fera que la nuit. Puisque ça va mettre un peu plus de temps et ça ne fait pas forcément sens de l'exécuter effectivement à chaque fois. Donc on aura rarement qu'une seule build definition puisqu'on va utiliser ça vraiment. En fait, c'est notre unité d'automatisation à partir du code source. Quoi.
Et donc là, effectivement, tu en parlais, Pascal, il y a la notion d'intégration continue. Donc il y a un processus qui vise à réduire les efforts d'intégration en automatisant la compilation, l'exécution des tests, l'assemblage, la compilation, l'assemblage, l'exécution des tests, dans un workflow qui va pouvoir s'appuyer sur des éléments externes éventuellement, notamment s'il y a des tests à lancer. Et donc ça, c'est un processus qui existe depuis longtemps. La dimension DevOps de l'intégration continue, en fait, elle va être culturelle, en fait, ça va être l'implication de tous les acteurs autour de l'intégration continue. Typiquement, les ops, l'intégration continue, ça ne leur parlait pas forcément encore il y a quelques années. l'Ops DevOps, ça, il va s'intéresser à l'intégration continue, il va participer à la mise en place du processus d'intégration continue, de l'environnement lié à la mise en place du processus d'intégration continue, parce que on peut faire, on a des outils, les nôtres en particulier, qui permettent d'aller très très vite dans la mise en place d'une chaîne d'intégration continue. Mais si c'est pour arriver à une chaîne d'intégration continue qui nous sort un code qui plante sans arrêt parce qu'il manque toujours quelque chose, ça sert à rien. Donc il faut vraiment qu'il y ait, encore une fois, une collaboration des différents acteurs pour en faire en sorte que la chaîne d'intégration continue, elle aboutisse à un résultat qui soit fiable à chaque étape, ce qui fait qu'on fait confiance à la chaîne d'intégration continue, c'est une des clés de confiance. Et si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a un problème dans le code qui a été mis à disposition de la chaîne, c'est pas la chaîne qui est à l'origine du fait qu'il y a un problème. Donc un build, s'il ne marche pas, c'est que le code est en cause, c'est pas la chaîne de production du build qui est à remettre en cause.
Et il y a un autre point aussi sur lequel les équipes opérationnelles sont, je dirais, implicitement impliquées sur les chaînes d'intégration continue et de build, c'est que du fait qu'on versionne les scripts d'infrastructure ou des scripts PowerShell, on va aussi essayer de trouver des moyens de les intégrer dans cette intégration continue, et on a vu apparaître des outils type Pester, par exemple, qui vont nous permettre de tester automatiquement des scripts PowerShell pendant une build. Donc du coup, de la même manière qu'on va faire des tests unitaires sur du code, on va être capable de réaliser des tests de validation sur des scripts d'infrastructure qui seraient aussi dans ce repository de code source. Donc c'est vraiment, comme disait Stéphane, un process qui concerne tout le monde sur le projet, puisque quand la build ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Mais un problème au niveau du code.
Et donc, dans sa mise en œuvre, le processus d'intégration continue, il s'articule autour de plusieurs étapes. Donc, il faut le code source, effectivement. Le développeur va archiver son code source. Et au moment où il archive son code source, que ce soit par un check-in ou un commit, eh bien, on va pouvoir déclencher le build. Et le build va pouvoir lancer l'étape de compilation, éventuellement en faisant appel à du package management, arriver à aboutir jusqu'à un assemblage de l'ensemble du livrable, qui peut être donc un exécutable, des librairies, et lancer dans la foulée toute une série de tests donc, qui auraient été établis en amont, et comme l'a souligné Julien, ça pourrait être des tests aussi bien liés à l'applicatif qu'à l'infrastructure.
Et donc du coup, notre système de prédilection pour mettre en place ce type de workflow de build côté Microsoft, c'est alors Team Foundation Server qui permet de faire ça depuis plusieurs années, et aujourd'hui dans le cloud, Visual Studio Team Services qui nous fournit un système de build. Un système de build qui est assez intéressant en fait, parce qu'il n'est pas réservé uniquement à des technologies Microsoft. Aujourd'hui, le système de build de Visual Studio Team Services, il a été totalement repensé. Il est d'ailleurs désormais intégré dans Team Foundation Server 2015 Update 2, je crois. Et il va nous permettre de compiler des applications évidemment .NET, mais de faire de la build sur des workflows, des workflows de build sur des technologies pure web, que ce soit du JavaScript, par exemple, des applications Node.js, où là, ça peut paraître un peu étrange parce qu'on n'a pas forcément une étape de compilation au sens où on entendrait pour un code .NET, un code C++ ou autre, on va vraiment passer d'une étape du code à un binaire. Mais on va pour autant avoir un certain nombre de tâches qui sont automatisables, transformer des fichiers TypeScript en JavaScript, transformer des fichiers less en CSS, minifier un certain nombre de fichiers CSS ou JavaScript pour qu'ils occupent moins d'espace au moment où ils sont téléchargés. Tout ça, au final, c'est des tâches qu'on avait peut-être tendance à faire beaucoup sur le poste du développeur pendant un temps, qu'on va essayer de remonter au niveau du serveur d'intégration continue, parce que ça nous permet de le faire pour tous les développeurs d'un coup et d'agréger potentiellement tous les codes qui ont été commités ou check-in dans le contrôle de code source. Et donc aujourd'hui, on a un système de build qui est très ouvert, qui permet de faire donc .NET, Node.js, je l'ai dit, de compiler du Java, du C++, et même d'aller un petit peu plus loin et de compiler du code pour des applications iOS et Android, par exemple. Et donc ça va fonctionner avec un système d'agents, c'est-à-dire que quand on va lancer une build, elle va aller s'exécuter sur un agent, et ces agents, on va pouvoir en avoir deux types. On va avoir des agents qui sont dits hébergés, donc qui sont fournis par Microsoft, où là c'est des machines Windows qui tournent dans Azure, dans lequel on va avoir un certain nombre de SDK, on va dire, communs et supportés, tout ce qui est SDK .NET, Visual Studio, Node.js, les outils liés au web, etc., un certain nombre d'outils pour le Java. Par contre, dans certains cas, ces outils-là, on n'a pas pu prévoir tous les outils sur ces agents. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va proposer, c'est un modèle de bring your own agent. Donc, en gros, on va proposer des exécutables qui vont permettre de créer des agents, aussi bien sur Windows, sur Linux et sur Mac, pour gérer justement les workflows de build iOS, ou si vous faites des applications Xamarin par exemple, on pourra builder des applications iOS Xamarin sur un Mac. Et donc on a juste un petit agent à installer, à le démarrer, le connecter à son compte Visual Studio Team Service, et à partir de là, on va pouvoir exécuter n'importe quel workload dessus. Autre point qui est assez intéressant avant de passer à la démonstration, c'est qu'on a vu que Visual Studio Team Services offre une fonctionnalité de gestionnaire de code source, que ce soit du Git ou du TF-VSC, mais pour autant, on n'est pas obligé de choisir d'utiliser cet outil pour gérer ses sources. Ça peut être pour plein de raisons. Dans l'exemple que j'ai utilisé jusqu'à présent, Vorlon.js, c'est parce que c'est un projet communautaire, donc on a choisi d'héberger ce code-là sur GitHub, qui est beaucoup plus approprié. Et pour autant, on est capable de gérer tout ce qui est intégration continue avec Visual Studio Team Service directement. Et donc du coup, on va faire une petite démonstration de ça.
Oui, allons-y.
Et on va commencer par la partie un petit peu chaîne non Microsoft, en environnement un peu hétérogène. Et donc là, je suis sur le back-end Team Services pour le projet Vorlon.js. Donc c'est ce qu'on utilise dans notre production pour gérer nos builds, pour gérer nos releases, etc. Et donc du coup, ici, j'ai deux builds différentes. J'ai une build d'intégration continue que vous pouvez voir à l'écran. C'est le build d'intégration continue. Donc là, c'est une définition de build. Si je veux en créer une nouvelle, je clique sur le bouton plus. J'ai un certain nombre de templates en fonction des technologies que je veux utiliser. Si je veux faire de la build Android, utiliser des outils comme Maven ou autres, ou alors faire des builds Xamarin ou Xcode directement, ou alors je peux démarrer d'une définition vide et puis composer moi-même mon workflow. Donc c'est ce que j'ai fait ici, et une fois que j'ai créé ma définition, je vais pouvoir venir ajouter un certain nombre de tâches pour utiliser par exemple Gulp, qui va me permettre d'exécuter des tâches en JavaScript pour aller transformer des fichiers TypeScript en JavaScript, pour transformer les fichiers LESS en CSS, etc. Je peux exécuter des tâches MSBuild dans le cas de projets sur des technos Microsoft, etc., etc. Et donc du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que la première opération de ma build, ça va être, comme le disait Stéphane, la récupération des sources. Et ces sources, je vais indiquer directement à Visual Studio d'aller les récupérer dans GitHub. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici dans mes services annexes que je peux connecter à Visual Studio Team Services, déclarer mon compte GitHub qui a accès au repository Vorlon.js. Et du coup, en faisant ça, je peux directement ici venir parcourir les différents projets auxquels j'ai accès sur GitHub, choisir la branche sur laquelle je veux me baser, et donc du coup c'est ça qui sera cloné à chaque fois qu'une build se déclenche. Ensuite, j'ai la partie trigger. Comment est-ce que je veux exécuter cette build? Ça peut être manuellement, ça peut être en intégration continue, donc à chaque fois qu'un check-in est fait sur ma branche de développement, je vais déclencher une build pour valider ce qui se passe, ou alors ça peut être fait de manière planifié, où là je vais dire je veux faire une build tous les X jours, toutes les nuits, à telle heure, etc. Donc là en l'occurrence on est vraiment sur la build d'intégration continue. Ensuite cette build, je vais définir un workflow à effectuer. Donc une fois que les sources sont récupérées, je vais faire un npm install pour installer les fameuses dépendances dont j'ai besoin dans mon application. Je vais utiliser un framework de test qui s'appelle Mocha.js pour exécuter des tests unitaires à l'aide de Gulp. Je vais packager mon application, donc je vais la zipper pour pouvoir la réexploiter un peu plus tard. On aura l'occasion d'en reparler dans le module suivant. Et ensuite, une chose intéressante, comme j'ai exécuté des tests dans une technologie qui n'est pas forcément directement prise en charge par Visual Studio Team Services, je vais pouvoir avoir une tâche qui me permet de publier les résultats de ces tests dans mon dashboard pour conserver une interface assez sympa. Donc là, en l'occurrence, Mocha.js, ça produit un fichier au format JUnit et Visual Studio Team Services est capable de réintégrer ça dans mon dashboard pour faire en sorte que quand j'ai une build qui soit exécutée, j'ai un affichage sympa qui vienne ici et que je ne sois pas obligé d'aller regarder dans les logs ce qui s'est passé. Donc vraiment un point important, on est sur des technos qui sont au départ pas du tout des technos Microsoft, mais on est quand même capable de venir s'intégrer ici. Et dans le cas où on n'aurait pas des tâches qui soient prédéfinies comme c'est le cas ici, au final on peut faire un petit peu ce qu'on veut, puisque ce que je disais, c'est que on est capable d'apporter son propre agent pour effectuer une build. Donc en l'occurrence ici, mon agent c'est une machine Linux que j'ai démarrée juste avant, et puis ici j'ai mon agent qui est démarré, qui écoute. Si je vais voir dans la liste de mes agents ici, je vois bien que j'ai une machine qui est dispo ici en attente, et si je regarde un petit peu, je vois que c'est bien un agent qui tourne sous Linux. Je peux récupérer un petit peu toutes ces capabilities, voilà, il y a du Node.js, il y a du Make, il y a du Python, etc. Donc tout ça, c'est des outils que je vais pouvoir exécuter dans mon workflow de build. Et pourquoi on a fait du Linux dans le cas présent? C'était parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore tous les outils Docker sur Windows. Et donc du coup, pour packager une image Docker, il fallait qu'on soit sous Linux pour le faire. Et donc là, on a fait un truc qui est relativement simple, hein, j'en ai un petit peu parlé dans le module d'avant, c'est que dans notre code source, on est venu écrire un script bash. On n'avait pas non plus bash sous Windows au moment où on a fait ça, on l'a aujourd'hui. Donc on est venu utiliser un script bash ici qui va aller récupérer la version de l'application dans le package.json, qui va faire un Docker build pour créer l'image à partir du Dockerfile. Je passe les détails, mais en gros c'est une compilation Docker pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une étape de build Docker. J'écris mon script. Et ce que je vais faire au niveau de Visual Studio Team Service ici, c'est que je vais tout simplement ajouter une script, une tâche qui est l'exécution d'un shell script qui se base sur fichier, puisqu'en fait ici ma build elle est reliée à mon contrôle de code source, et donc du coup je vais retrouver les différents éléments d'infrastructure aussi qui sont à l'intérieur. Autre point intéressant ici, c'est la notion de variable, d'argument. Donc là, mon script, en fait, si on regarde, il attend deux arguments qui vont être le compte utilisateur et le mot de passe pour se connecter à mon compte Docker Hub pour publier l'image. Et du coup, en fait, on utilise ici des variables de haut niveau, ce qui permet là de vous montrer ça sans avoir mon mot de passe en clair. Et j'ai une notion ici de variable où je vais dire, bah voilà, le docker.username c'est vorlon.js et le docker.password c'est le mot de passe dont j'ai besoin. Et donc ça, je vais pouvoir comme ça créer des variables au niveau de mes builds pour pouvoir gérer tout ça. Et puis, ma build, alors là je ne vais pas le faire parce que ça me publie directement une image sur le hub de production, mais une fois qu'elle est prête, je vais tout simplement cliquer sur déclencher une nouvelle build et automatiquement ça va aller s'exécuter sur l'agent. Je peux le faire avec la première qui est l'intégration continue, donc là je ne suis pas sur un commit mais c'est pas très grave. Je peux venir ici déclencher une nouvelle build. Et à ce moment-là, il va aller utiliser mon agent Linux ici, qui exécute un agent. Donc lui, il a bien été notifié ici. Et il va tout simplement aller faire un clone du code source et exécuter les différentes étapes qu'on va voir défiler une par une ici. Donc voilà un premier exemple de build. Second exemple qu'on peut montrer, c'est un workflow, on va dire, un petit peu plus traditionnel pour les gens qui travaillent dans l'écosystème des technologies Microsoft, où là, on est sur une solution que je vous montrais tout à l'heure, une application en ASP.NET. Et donc, cette application, elle comporte des tests unitaires. Hop, je switch, je vais revenir ici. Donc j'ai une première étape ici, non, ça c'est un test de charge, où je vais retrouver quelques tests unitaires, alors assez basiques, vous en conviendrez, qui vont faire des fails ou rien du tout, donc on considère que ça marche. Mais en gros ici j'ai les tests unitaires dans mon projet. Et ce que je vais pouvoir dire ici, c'est que je vais dans un premier temps faire un build de ma solution. Donc là, pour le coup, mon repository de code source, c'est Visual Studio Team Services, c'est plus GitHub. Dans cette build, je vais avoir un certain nombre de paramètres notamment ici la possibilité de restaurer les packages NuGet pour récupérer les dépendances. Ensuite, je vais exécuter les tests unitaires et je vais aller publier deux choses. Première chose que je vais publier, c'est le package applicatif qui contiendra mon application web. Donc c'est un package web deploy qui pourra être publié sur n'importe quel site web 2IS dans la suite. Et je vais également aller publier un deuxième élément qui sont les fameux ARM templates qui sont disponibles également dans le dossier template, dans mon contrôle de code source. Et donc là, on est sur une étape charnière qui fera la transition avec le prochain module. C'est qu'en fait, on garde en tête que le but de faire une build, c'est deux choses. C'est quand on fait de l'intégration continue, donc valider que tous les éléments fournis par les développeurs, ops, etc., s'intègrent correctement entre eux. Donc ça, ça se fait tout simplement en récupérant la dernière version des sources, compilant l'application et en exécutant un certain nombre de tests unitaires et de validations dessus. Et ensuite, on va avoir un autre élément qui est important, c'est de produire les fameux binaires dont tu parlais, Stéphane, et de les publier sur un endroit qui soit accessible pour pouvoir ensuite les passer en production sur des environnements de staging, etc. Et ça, c'est ce qu'on fera quand on parlera de release management. Et donc là, je pense que voilà, ma build est terminée. Donc du coup, si je reviens sur mon Vorlon.js ici, je peux voir que bah, tout s'est bien passé. Je peux avoir accès à la définition de ma build et je peux voir exactement tout ce qui s'est passé sur mon agent Linux. Tout a été renvoyé dans Team Foundation Service, Team Services, on s'y perd, Visual Studio Team Services, merci, et avoir vraiment une expérience 100% intégrée. N'importe qui viendrait se connecter sur ce dashboard pour suivre l'évolution du projet verrait que ça s'est bien passé. Et ça a également publié, j'ai fermé Slack ici, mais ça a également publié un message sur Slack que j'ai montré dans un autre module pour dire bah ok, la build est passée, tout s'est bien passé. Donc tout le monde est au courant comme ça.
Merci Julien, impressionnant. N'oublions pas que dans la plupart des projets importants, il y a plusieurs développeurs, voire beaucoup de développeurs qui vont travailler en même temps sur un projet. Donc c'est très intéressant et c'est un effet vertueux de l'intégration continue qui est de tester en direct et tous les jours, en tout cas le plus régulièrement possible, la non-régression des builds en fonction de tout ce qui arrive, de tous les développeurs du projet. Donc merci Julien, merci Stéphane et on se retrouve pour le dernier module juste après.